affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de Canal Académie. Ce sont les deux derniers rois de France, et pourtant, presque aucun Français n'est capable de citer leur nom, sans même parler de situer leur règne. Au moment où les cinq académies de l'Institut de France ont fait leur rentrée solennelle sous la coupole mardi 22 octobre, en travaillant sur le thème « Le passé est-il passé ?», il nous a semblé important de revenir sur une période plongée dans un véritable angle mort de l'histoire de France. Je veux parler de la Restauration et des règnes de Louis XVIII et Charles X. Voilà un oubli d'autant plus paradoxal que cette période, s'étalant de 1814 à 1830, fut particulièrement féconde sur le plan des idées politiques et que, à l'exception de deux rapides campagnes militaires, la Restauration eut cet incomparable mérite de ramener une paix durable après 20 ans de guerre révolutionnaire et napoléonienne. La Restauration fut également une ère de fécondité culturelle qui a inspiré à chacun dans un genre différent, il est vrai, certaines des plus belles pages de François-René de Chateaubriand ou de Victor Hugo. C'est également sous la Restauration que Balzac choisit de poser le décor de sa comédie humaine. Alors pour tenter de comprendre et peut-être même de réparer cette injuste amnésie au sujet de la Restauration, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir l'historien Benoît Hiver, familier de l'Institut de France puisqu'il a travaillé plusieurs années au service de l'Académie des sciences morales et politiques. Il est désormais le directeur des éditions Perrin et il est l'auteur de l'ouvrage « La Restauration, les idées et les hommes » qui vient de paraître aux éditions du CNRS. Benoît Hiver, bonjour.
Bonjour.
Alors, si vous le voulez bien, avant d'aborder pleinement notre sujet, faisons peut-être un point d'historiographie pour essayer de comprendre cet oubli. Alors, est-ce que, selon vous, la Restauration ne serait pas tout simplement victime des programmes scolaires volontiers lacunaires et qui, au lieu d'un balayage chronologique complet, se contente souvent de quelques gros plans sur des périodes phares et, ce faisant, la Restauration serait asphyxiée, éclipsée par la Révolution et l'Empire.
Vous avez tout à fait raison. Elle est victime en amont de son histoire du surpoids, d'une certaine manière, de la Révolution et du Premier Empire. Et la Restauration est presque morte de son vivant avec la publication du mémorial de Sainte-Hélène. Et d'avoir été ensuite chassée à la fois par l'instauration de la Seconde République, le Printemps des Peuples, 1848, Sedan, la chute du Second Empire, et bien sûr, et peut-être surtout, la Première Guerre mondiale, puisque l'année prochaine, je pense qu'on fêtera plus le centenaire de la Première Guerre mondiale que le bicentenaire de la Restauration.
C'est à craindre.
C'est à peu près certain, en tout cas.
Alors, comment expliquer, finalement, qu'on s'intéresse si peu à la Restauration ?
Mais parce qu'on s'intéresse, je pense que tout processus historique est en partie issu des lectures de jeunesse et que la littérature historique jeunesse, y a pas, on ne trouve absolument pas d'appel d'initiation quelconque à la Restauration. Et ce sont les figures de proue, Louis XIV, on l'a dit, la Révolution, Napoléon. Pour les plus cultivés d'entre eux, Napoléon III, ensuite ouais. Clémenceau. Elle n'a pas ces figures de proue, Charles de Gaulle, à la destinée un peu héroïque, qui pousse un enfant à vouloir se surpasser en admirant. Oui. Et la Restauration, on y entre par raison et on la poursuit par passion. Mais il n'y a pas le fil d'entrée, le grand fil d'entrée.
Qui est l'admiration. Alors.
Voilà, que Lyotard appelait le grand récit, ou l'admiration, ou la figure de proue, le sauveur, le héros, qui sont autant de portes d'entrée faciles pour un enfant.
Alors je rebondis sur ce que vous dites, parce que non seulement la Restauration est généralement oubliée, mais lorsqu'elle est dans les mémoires, elle a plutôt mauvaise réputation.
Voilà, ça, alors effectivement, c'est une période, soit on ne la connaît pas, et quand on la
soit
connaît,
on la méprise.
On a tendance à faire sien, par exemple, le jugement de Napoléon à Sainte-Hélène qui parlait des têtes à perruques. Et je suppose qu'on la perçoit comme une période dirigée par quelques immigrés séniles qui tentent d'établir une sorte de ressuscité de l'Ancien Régime, alors que c'est tout le contraire. C'est une période qui est absolument passionnante parce que c'est la première qui établit sereinement les conditions de la liberté d'expression et où toutes les familles politiques françaises, oui, des royalistes, mais il y a énormément de royalistes différents. Et surtout à l'époque, qui s'en souvient, presque toute la France est royaliste. Des bonapartistes, des libéraux, des républicains, les premiers socialistes, les romantiques, posent les jalons de leurs œuvres et d'une pensée sur laquelle on vit toujours. Mais l'histoire étant une fille ingrate, elle a tendance à facilement l'oublier pour préserver soit la geste, soit les grandes ruptures, alors que la pensée se fonde sur la raison, donc sur le calme.
Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une raison, comment dirais-je, plus idéologique ou plus morale, si je puis dire, au sens où, comme une espèce de complexe, au sens où finalement la restauration commence bien mal. Si l'on regarde, elle commence sur un faux départ, c'est-à-dire une première interruption avec les 100 jours, puis un retour de Louis XVIII. Louis XVIII qui est placé sur le trône à deux reprises par des gens qui ont envahi la France. Et donc nous avons un régime qui repose sur, finalement, une défaite française. Et à cela, si on peut ajouter un court épisode de terreur blanche avec peut-être une frayeur des gens, des révolutionnaires peut-être qui ont eu peur. Non, est-ce que il n'y a pas cette mauvaise réputation, ne serait-elle pas due à ce faux départ, finalement ?
En très grande partie, c'est là. Ça a été d'ailleurs démonté par un très bon livre de Bainville que plus personne ne lit sur les conditions de la restauration de 1814. Elle a la réputation d'être le régime établi par l'étranger et elle se termine par une révolution provoquée, alors là c'est exact, par une camarilla de cour qui entoure le dernier roi de France, Charles X. Donc elle est un petit peu née par défaut et un peu morte par bêtise. Donc c'est vrai que ça n'aide pas à l'inscrire dans la postérité.
Alors pouvez-vous revenir peut-être sur la manière dont la restauration s'opère ?
Alors elle
1814, donc Napoléon abdique.
Alors elle s'opère d'ailleurs avant même l'abdication de Napoléon par la geste et le rôle de quelques petits groupes royalistes. Et on oublie que le 12 mars 1814, Napoléon combattant durant la campagne de France, la ville de Bordeaux est la première, grâce à l'action d'un groupuscule royaliste qui s'appelle les Chevaliers de la Foi, mais au soutien majoritaire de la population de Bordeaux, à arborer le drapeau blanc. Alors ce qui est très bizarre en 1814, c'est qu'il n'y a pas véritablement une vague forte d'opinion royaliste. La restauration est faite par quelques individus. Il y a une nostalgie du royalisme chez une portion de la France, notamment rurale, qu'on trouve en particulier dans l'Ouest et le Midi. Il y a un peuple royaliste, mais il n'y a pas une vague de fond royaliste. Et quand il publie de Bonaparte et des Bourbons en 1814, Chateaubriand constatera que les Bourbons sont déjà et à peu près complètement oubliés. Comment en serait-il autrement dans une France qui, depuis 25 ans, a connu une histoire au sens propre extraordinaire et qui, pour les meilleurs d'entre eux, déjà à l'époque on meurt beaucoup plus jeune, garde un souvenir qui n'est pas forcément teinté de nostalgie du règne de Louis XVI. Ça viendra après, avec l'impression, là aussi, de la légende noire de Louis XVI et de Marie-Antoinette, d'une certaine forme de faiblesse et d'un règne qui a été mené à contre-temps. Ajoutons-y pour que les nouvelles figures du pouvoir ne sont pas proprement charismatiques. Louis XVIII est un roi impotent, on l'appelle le roi podagre, qu'on surnommera aussi le roi fauteuil, que les bonapartistes les plus virulents appellent le surnom le gros cochon. Donc ça, c'est quelqu'un qui souffre de problèmes d'obésité, qui a un air véritablement royal, qui frappera tous ses interlocuteurs. Mais par rapport à l'empereur à cheval Napoléon, les apparences physiques ne jouent pas profondément en sa faveur.
Bien qu'il y ait une finesse d'esprit d'ailleurs assez exceptionnelle chez Louis XVIII.
Et un charisme, encore une fois, Chateaubriand, je crois, dans les mémoires d'Outre-Tombe, dit Louis XVIII était roi partout, et la seule chose qu'il ne l'avait jamais abandonné, c'était la conviction de son destin et de sa grandeur. Mais bon, ça, il faut avoir vu Louis XVIII, j'ajouterais, pour les malheurs de cette période, qu'on est encore dans une période où nous n'avons effectivement pas de radio, pas de télévision, et où les seules traces sont les traces écrites. Mais quelles traces écrites ?
Mais quelles traces ? Oui, voilà. Chateaubriand, oui.
Chateaubriand,
ça vaut bien la télévision.
ça vaut beaucoup mieux que la télévision. Vous avez Chateaubriand, vous avez Hugo, royaliste devenu libéral et bonapartiste. Vous avez Stendhal du côté des bonapartistes libéraux. Vous avez, dans les grands écrivains du royalisme, vous avez le couchant de Joseph de Maistre, qui meurt en 1822. Vous avez Louis de Bonald, dont Balzac dira qu'il est le plus grand écrivain de son siècle. Vous avez Saint-Simon pour les socialistes, qui est le premier à établir une vraie corrélation, un changement de civilisation vers l'ère de l'industrie et du commerce. Vous avez Benjamin Constant, sans doute un des plus grands écrivains politiques français de tous les temps. Madame de Staël pour les libéraux. Guizot pour les libéraux, alors les libéraux plus conservateurs, qui essaient de réconcilier libéralisme et pouvoir, qu'on appelle les doctrinaires. Oui, c'est un enchantement pour l'esprit quand on prend la peine d'entamer le voyage.
Oui. Alors justement, entamons le voyage, poursuivons-le. Comment est-ce que Louis XVIII revient sur le trône ? Le trône, donc, qui a été quitté par son frère Louis XVI dans des circonstances que l'on connaît.
Alors, il revient un petit peu par défaut, et il revient sous la conjonction du rôle donc de groupuscule royaliste et de l'acceptation par un certain nombre de grands notables de l'Empire, Talleyrand étant le plus connu, qui finissent par se dire qu'il n'y a pas d'autre solution possible. c'est pas un choix de cœur. Talleyrand a conspiré, enfin, assez ouvertement pour la chute de l'Ancien Régime. Les royalistes ne lui pardonnent pas son rôle dans le Concordat de 1801. Et pourtant, quelqu'un comme Talleyrand, parce qu'il est l'intelligence personnifiée, comprend, il le dira au tsar, qu'il faut un principe pour gouverner la France. Qu'est-ce que l'on va mettre ? On ne peut pas garder Napoléon.
On ne peut pas remettre une république.
La république est totalement inenvisageable à l'époque par toutes les personnes politiques de presque quelques milieux que ce soit, parce qu'elle reste à l'époque accrochée au souvenir de la terreur, de l'anarchie, du directoire. Donc c'est soit la terreur, soit l'anarchie. Alors on pourrait mettre une royauté, mais quelle royauté ? Alors on envisage, hein, tout est sur la table. On envisage une royauté, par exemple, de Bernadotte. Prince royal de Suède, ancien maréchal de Napoléon, ancien sergent belge de la Révolution, mais qui a quand même fait tirer sur les Français à la bataille de Leipzig. Donc il n'a pas d'histoire, il n'a pas de passé, et il a un passif récent. On envisage Eugène de Beauharnais, le beau-fils de Napoléon. Mais là aussi, quelle légitimité, d'où parle-t-il ? Du côté royaliste, il y a deux pistes plus sérieuses.
On aurait pu envisager, mais ça n'a pas été fait un instant, l'Aiglon, c'est-à-dire le fils de Napoléon.
Alors ça a été envisagé un petit peu sérieusement. D'abord, c'était le souhait de Napoléon par l'Autriche, puisque l'Aiglon étant le fils de Marie-Louise, on pouvait supposer une forme de tutorat, mais qui aurait exercé ce tutorat ? Qui aurait été le régent de l'Empire ? Oui, on ne peut pas imaginer un chancelier autrichien ou un ambassadeur d'Autriche en France. Les Français ne s'y seraient probablement pas prêtés. Et on finit par hésiter. Il y a deux solutions royales possibles. La solution orléaniste, qui est agitée depuis d'ailleurs 1789 avec Philippe Égalité, et qui est incarnée par un prince qui régnera en 1830, Louis-Philippe, avec cette très belle formule de Madame de Rémusat concernant « Il est du sang des Bourbons et il en est couvert » à cause de la question du régicide. Mais c'est un prince éclairé qui a beaucoup d'amis en Angleterre, mais que ce n'est qu'une idée, il n'y a pas de sentiment populaire. Et donc on finit, presque comme une nécessité, par se replier sur les Bourbons. Les Alliés n'en veulent pas beaucoup. Il n'y a que les Anglais, parce qu'eux-mêmes ont connu une révolution et eux-mêmes ont connu une restauration, qui savent que dans la gabegie générale, on a une France à terre qui est battue. Il faut un principe, et c'est l'intelligence anglaise qui rejoint le pragmatisme de Talleyrand pour finir par s'imposer finalement... je dirais presque à l'intention de tous et sans équivoque possible, c'est Louis XVIII ou personne.
Oui.
Et là, seul inconvénient du roi, quel sort va-t-il réserver à la Révolution française ? Il a la réputation d'être plutôt intransigeant. Il a, dans ses premières proclamations, à la mort de Louis XVII en 1795, il n'a pas proprement parlé fait dans la dentelle, il a menacé de châtiment notamment les régicides. Qu'est-ce qu'il va faire de l'arsenal législatif de la Révolution et de l'Empire ? Mais Louis XVIII est un homme à la fois très pragmatique et intelligent. Il l'a vécu en Angleterre, d'où sa connexion aussi anglaise et le fait que les Anglais le soutiennent. Et dès les années 1804, il a mis de l'eau dans son vin. Il a accepté un certain nombre de concessions et notamment de reconnaître l'essentiel des nouvelles institutions. Il est intransigeant sur le principe de son règne, la légitimité qu'on retrouvera dans la charte, le drapeau blanc, et non le drapeau tricolore, et la charte n'est pas une constitution qui est le fruit d'un échange entre des parties adverses, mais un acte librement octroyé par le roi. Donc il accepte de donner une constitution, mais il refuse, contrairement à ce que Talleyrand voulait au début, qu'on lui impose une constitution. Donc débat qui n'est pas que sémantique, et qui lui permet d'une certaine façon de reprendre la main. Mais et lui et Talleyrand sont conscients qu'on ne peut pas gouverner la France comme elle a été faite auparavant, et qu'il faut un compromis. Et il proposera un mot d'ordre à ce compromis, union et oubli.
Oui, alors nous allons y revenir, ça sera vraiment le cœur du sujet, mais juste avant cela, traitons peut-être la parenthèse importante des 100 jours. Comment expliquer finalement le retour si déconcertant de facilité de Napoléon de l'île d'Elbe et la reprise finalement du pouvoir en quelques jours ?
Oui,
pourquoi est-ce que ça s'est passé de manière si, si facile finalement ?
Parce qu'on a quand même, c'est la grande découverte des 100 jours, il y a un vrai peuple bonapartiste. Et Napoléon ne s'est pas plutôt éloigné à l'île d'Elbe que la Restauration a d'une certaine manière, ce qui sera toujours son drame, payé la note de frais laissée par Napoléon, qui est sous la forme quand même d'une défaite militaire, d'un traité de paix, qui est plutôt modéré. Le traité de Paris de 1814 ramène la France à ses frontières de 1792. Malgré tout, vous avez un autre phénomène, par exemple, je pense à la République de Weimar en Allemagne. Le régime qui signe la paix après une défaite emporte d'une certaine façon la famille. À cette raison, à cette fragilité du point de départ et de la fragilité et de la faiblesse du peuple royaliste, s'ajoutent les grosses erreurs de gouvernement qui sont faites par Louis XIV à son retour. Ben, c'est très simple, on a quelqu'un qui est absent de France depuis 1791, qui ne connaît pas bien le nouveau personnel politique et qui essaie en rentrant qu'un cas de composer un gouvernement et tout de suite se heurte à l'intérieur de ce gouvernement recyclés du consulat et de l'Empire, qui eux sont vraiment partisans d'un régime libéral, mais une partie d'émigrés. Le roi a besoin de quelques fidèles autour de lui. Il y a une personne qui s'appelle le duc de Blacas, enfin comte à l'époque, ministre de la Maison du Roi, favori de Louis XVIII, qui va focaliser les haines, parce que symbolisant l'esprit émigré et voulant céder, lui, le moins de terrain possible aux nouvelles institutions. Donc cette tension libéraux-ultra, enfin ou constitutionnel-ultra, qui va traverser toute la Restauration, se trouve dès le départ. Et on a un Louis XVIII qui ne sait pas très bien comment gouverner. Il y a une jolie scène dans les mémoires d'un ancien ministre de Napoléon devenu préfet de police de Louis XVIII qui s'appelle le comte Beugnot. Il raconte qu'il vient travailler avec Louis XVIII pour la première fois. Il amène une masse de documents comme il l'a fait avec l'empereur. Des nominations à signer, des décrets. Alors Louis XVIII regarde, il relit, il signe. Et à la fin, il lui dit « Mais écoutez, monsieur, c'était bien long. » Alors l'autre va voir Talleyrand, dit « Je sais pas, l'empereur voulait tout voir, tout entendre. » Et Talleyrand lui dit « Non, là, vous le fatiguez. Présentez vos affaires très rapidement, ramassez votre pensée et laissez le roi décider pour les choses essentielles, autrement, libérez-le. » Donc on a deux personnalités antinomiques. On a un roi qui veut se concentrer sur l'essentiel, qui n'est pas un nouveau Louis XIV, mais on a une mémoire de l'empereur et une manière de gouverner de l'empereur. Donc il y a beaucoup de flottement et d'inexpérience. Oui. Et puis il y a la découverte du régime parlementaire aussi, c'est une vraie découverte. En fait, la France n'a pas connu le régime parlementaire. Elle l'a connu marqué, sauf une brève exception entre dans les années 1790, début 91, il n'y a pas eu de débat et d'échange serein. Le débat parlementaire, c'est une guerre parlementaire entre des factions rivales, soldée par des coups d'État. Et pour la première fois, Napoléon a totalement muselé le Parlement. Et pour la première fois, on se retrouve avec des gens qui n'ont pas l'habitude de faire des discours et qui se retrouvent confrontés à prôner des opinions différentes. Donc dans ces discours, il y a beaucoup de flou, il y a beaucoup de maladresse, il y a beaucoup de paroles violentes, alors en particulier prononcées par certains à la Chambre des Pairs, par toujours ces royalistes les plus durs. Qui font peur à la nouvelle société.
Et des humiliations également. L'épouse du maréchal Ney, je crois, qui rentrait en pleurant d'avoir été maltraitée par...
Oui, parce qu'elle était... D'ailleurs, c'est un cas qui est, à mon avis, typique. Elle était liée... Elle avait été, je crois, femme de chambre de Marie-Antoinette, donc reconnue comme telle par une partie de la famille royale, mais qui, je crois que c'est la duchesse d'Angoulême qui l'appelle à un moment Aglaé. Ce qui se veut gentil de sa part, mais sauf qu'elle est devenue princesse de la Moskova, duchesse d'Etchingen. Et évidemment, elle a changé de statut entre-temps. Et on la ramène d'un seul coup à son passé. Mais ça se veut gentil, et en fait, c'est humiliant.
Oui.
Et il y a eu des histoires comme ça, il y en a plein. Plein de maréchaux qui voulaient servir, mais les maréchaux, en plus, il faut qu'ils se réhabilitent, il faut que toute l'armée... La France est faite par la guerre et la conquête depuis 92, et on demande à plus d'un million d'hommes, les fameux demi-soldes, de revenir en paix. Mais on n'a pas forcément du travail à leur donner, une défaite. Enfin, on l'a vu encore dans la séquence 40-45 ans long. Une sortie de guerre, c'est toujours un moment très traumatisant pour une société. Les idées se mettent en place, il n'y a pas encore de vrais principes de gouvernement. Il y a à la fois une impression d'amateurisme et de réaction qui se dégage. Et en face, on a un Napoléon qui, lui, n'a pas digéré très clairement sa défaite, qui pense qu'il reste le meilleur souverain pour la France, qui a un plan de retour... qui, en plus, est menacé, alors les Bourbons dans les bêtises qu'ils commettent vis-à-vis de lui, ne lui paie pas l'indemnité promise par le traité de Fontainebleau, de 2 millions de livres. Donc, évidemment, il risque d'être privé d'argent. Il est vaguement menacé d'assassinat, ça n'a jamais été très clair. Et surtout, au bout de 2 mois, l'île d'Elbe, il s'ennuie d'une manière apocalyptique. On n'est pas encore à Sainte-Hélène. Et entre cultiver ses navets et réformer l'île d'Elbe, ce qui fait comme un frénétique pendant ses premiers mois de règne, entre guillemets, dans ce toute petite île, et la perspective de revenir en France, la tentation devient trop forte. Il a des échos, la presse est libre pour la première fois, il voit que les mécontentements s'accumulent, que l'armée le regrette, que le gouvernement patauge. Eh bien, il prend ce pari, quand même extraordinaire et assez fou. Napoléon, de ce point de vue-là, est aussi un artiste et un souverain qui remet tout son sort sur un coup de dé, qui aurait pu être tragique. Murat, quand il est en train de faire la même chose, lui sera récupéré à la sortie de son canot et ridiculement jugé puis fusillé. Sauf que Murat n'est pas le roi de cœur des Napolitains et que Napoléon a quand même des vraies capacités. Confère les proclamations à l'armée, au peuple magnifique qu'il dicte depuis le golfe Juan. Il a le sens du risque. Il sait qu'il va avoir beaucoup de mal à passer dans le sud.
Mais oui, son parcours arrive... est travaillé, très travaillé. Il repasse par Lyon, notamment.
Mais c'est un grand stratège. Succès, oui. Et il fuit les villes du sud pour éviter d'être attrapé par... là, il y a encore des bandes royalistes fortes qui pourraient lui faire du mal. Et au tout début, quand il a 600 hommes, il n'est pas en situation de lutter face à l'armée royale. Et il se retrouve devant Grenoble, où le premier régiment va se passer cette affaire. Ça se passe le défilé de la Fraise, ça se repassera à Grenoble. À chaque fois qu'il se retrouve devant ses anciens soldats, il sait payer de sa personne. Il sait s'exposer physiquement. C'est le cas au défilé de la Fraise. C'est une fameuse où il monte devant un bataillon en disant « S'il y a un homme qui veut tuer sur son empereur, allez-y, je suis là. » Ben évidemment, les soldats tremblent, les fusils tremblent. Et tout le monde le rallie. Et c'est d'abord l'armée qui fait les 100 jours, qui se jette vers lui. Et on assiste à cette scène d'une sorte de boule de neige où, au fur et à mesure, on a un cortège de militaires, une foule de plus en plus nombreuse. Et face à lui, un pouvoir royal qui s'étiole totalement.
Alors que fait Louis XVIII, justement ?
Dans un premier temps, la cour se divise entre ceux qui ne prennent pas ça au sérieux. Et Louis XVIII a tendance à le prendre très au sérieux, cette tentative. Mais il a cette formule un peu surannée. Il propose de courir sus à Napoléon. Comme le dit Chateaubriand drôlement, courir sus à l'homme qui avait couru sus au roi. Il ne peut compter que sur la garde royale n'est pas encore reconstituée. Les régiments suisses ne sont pas forcément pleinement opérants et le cœur royaliste de l'armée, qui n'est pas celui de la grande armée, est plutôt à Paris. Donc il doit compter sur la fidélité des troupes et sur la fidélité des maréchaux. Ce produit, au fur et à mesure, tout le monde l'abandonne et se jette dans les bras de Napoléon. Il y a deux cas célèbres. Le cas le plus célèbre, c'est le maréchal Ney, qui, pour essayer enfin de se faire bien voir de ce régime royal qui lui bat un peu froid, propose sans doute très sincèrement de ramener Napoléon dans une cage de fer. Mais au moment où il arrive au contact avec l'empereur, on est déjà aux trois quarts des 20 jours qui ouvrent des 100 jours. L'armée se débande absolument partout. Il passe une nuit sans doute shakespearienne. Et au matin, eh bien, il décide de rallier Napoléon parce qu'il sait que ses troupes, de toute façon, ne vont pas le suivre. Et que je pense qu'il n'éprouve pas à ce moment-là le cœur de tirer sur un vieux compagnon d'armes et l'idée que la Restauration n'a pas accompli effectivement ses promesses de réconciliation.
Et puis un chef naturel peut-être.
Oui, bien sûr, vraiment un compagnon au sens propre. Louis XVIII rate, à mon avis, en grande partie la dernière séquence, qui est celle de l'arrivée à Paris. Mmh. Il fait une très jolie séance, alors intelligente celle-là, où il réunit les pairs et les députés, et avec son frère, le futur Charles X, tous disent qu'ils ont vraiment fait leur mue constitutionnelle et qu'ils seront les rois, lui et son frère, des rois selon la charte. Les députés s'enthousiasment, mais une fois qu'on est sorti, Benjamin Constant fulmine un éditorial sur le nouvel Attila qui va tout renverser sur son passage. Mais c'est pareil, une fois qu'on se retrouve, si vous n'avez pas de fusil au contact de l'empereur, vous avez quelques milliers de militaires, une fiabilité douteuse, et vous avez un roi, c'est un peu le drame de Louis XVIII, ça a été celui de Charles X, qui ne prenne pas le risque de l'héroïsme, contrairement à Napoléon. Donc Louis XVIII, certains lui disent, il faut marcher en procession solennelle devant Napoléon, s'arrêter devant lui, lui dire « Monsieur, que faites-vous là ?» il va me mettre en prison ou je vais me faire fusiller, je ne vois vraiment pas le... Et il choisit de partir. Donc il y a un petit peu cette notion de fuite qui est un des éléments, si on revoit le parcours de Louis XVIII qui s'est enfui en 1791, si on voit celui de Charles X qui était attendu comme un sauveur à Quiberon par les Chouans et les Vendéens en 1795 et qui n'a pas débarqué, il n'y a pas le panache blanc.
Oui.
Et là, il est passé plutôt du côté de Napoléon.
Et où va-t-il alors, Louis XVIII, pendant ces 100 jours ?
Alors, il s'enfuit en Belgique, à proximité de la France, là où d'ailleurs vont avoir lieu la campagne décisive de 1815 à Gand. Et il attend patiemment les événements, en considérant, comme tout le monde, que les 100 jours vont être un feu de paille, parce que Napoléon a eu l'armée, il a eu une grande partie du peuple, mais il a toute l'Europe contre lui.
Oui.
Et le problème qui s'est posé en 1814 se repose démultiplié en 1815. Napoléon fait tout ce qu'il peut, il envoie des émissaires. Il dit « J'ai changé, je suis redevenu un empereur de paix ». Louis XVIII l'a piégé avec la charte. Napoléon fait l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire, qui établit un empire libéral et parlementaire, dont il se servira à Sainte-Hélène pour dire que c'était le sens vrai de son destin.
Ce dont on peut douter.
Ce dont on peut douter. Mais c'est l'art de Napoléon de transformer les contraintes en victoire pour la postérité. Louis XVIII, de son côté, donc, attend les événements. Là aussi, je lis page des mémoires d'outre-tombe sur Chateaubriand, se baladant à Gand, dans les plaines de Belgique, et entendant le son du canon au loin qui tonne à Waterloo. Et une nouvelle fois, c'est la défaite de l'armée française, 25 000 morts à Waterloo, qui, cette fois-ci, ramène Louis XVIII dans, entre guillemets, les fourgons de l'étranger, et qui place son règne sous le signe d'une évidente fragilité.
Alors, cela dit, il va réussir à regagner en tout cas la confiance des Français, alors que sa tâche est immense, parce qu'il doit redresser un pays exsangue,
oui.
Il doit lui redonner une place dans le concert des nations alors qu'il est au banc de l'Europe, il doit réconcilier ou au moins concilier les survivants de l'Empire, ce qu'il n'a pas su faire pendant la période 1814, avec les héritiers, les survivants de l'Ancien Régime avec les héritiers de la Révolution et de l'Empire. Et au sein de son propre camp, il doit ménager l'équilibre entre les ultras et les royalistes plus modérés, disons. Alors, comment fait-il pour accomplir cette tâche surhumaine ?
Moi, mon hypothèse de départ, c'est que je pense que les 100 jours ont provoqué une vraie réflexion, une vraie inflexion du roi. Mmh. Et quand il revient, il fait une chose qui est passée inaperçue, qui est pourtant un tournant décisif sur lequel on vit encore. Il nomme un président du Conseil des ministres, qui est Talleyrand. Il n'y a pas de Premier ministre durant la première Restauration. Il comprend donc qu'il faut dissocier le pouvoir royal du pouvoir gouvernemental. Il est décidé cette fois-ci à vraiment jouer le jeu parlementaire. Et il va même, comme signe de réconciliation et d'ouverture, il va très loin, puisqu'il accepte de nommer comme ministre de la police, le propre ministre de la police de Napoléon, mais qui a une particularité, c'est d'être régicide, qui est Fouché. Nomination de Fouché, c'est ça. C'est un acte de politique très fort pour dire « j'ai changé et cette fois-ci je pratiquerai une vraie politique d'ouverture ». Et ça lui permet tout de suite, alors c'est habile, parce que c'est le gouvernement Talleyrand Fouché qui va avoir, lui, à régler les questions très difficiles du retour, les questions d'épuration, de convocation des chambres. Mais ça lui redonne une impression de modération et d'être vraiment au-dessus de la mêlée. Et il accomplit plusieurs gestes patriotiques forts. Il menace de se faire porter sur l'actuel pont d'Iéna que Blücher menace de faire sauter. Il se bat avec force pour les intérêts français alors que Paris est envahi. Il donne des... Je pense qu'à ce moment-là, entre 1815 et 1820, Louis XVIII est un grand roi de France parce qu'il prend la mesure parfaitement, il l'a déjà eu, de sa légitimité et de sa charge, mais au service d'une vraie pensée politique. Et il va tenter de présider à un mouvement de réconciliation en faisant une politique que son principal ministre du temps, Élie Decazes, résumera d'une phrase « royaliser la nation, nationaliser la royauté ». C'est un petit peu la théorie qui traînait chez les royalistes les plus intelligents de la première révolution, chez les Rivarol, chez les Malouet et d'autres, et chez Mirabeau, qui était que le roi devait s'emparer de la France révolutionnaire et non pas se positionner contre elle, mais essayer d'accompagner le mouvement.
La surplomber.
Voilà, en accomplissant des vrais, comme la monarchie anglaise avait su le faire, en lâchant du lest, en accomplissant des réformes nécessaires, ouverture de l'armée au mérite, c'est la loi Gouvion-Saint-Cyr de 18. Vraie réforme libérale électorale, la loi Lainé de 1817, établissement du régime le plus libéral que la presse n'ait jamais eu, c'est les lois d'Auxerre de 1819, et constitution sous l'égide du duc de Richelieu, grand premier ministre qui va accomplir la libération du territoire, d'un ministère associant des royalistes de toujours, mais à l'élite du personnel politique révolutionnaire et impérial, des gens comme Pasquier, Monet, qui sont des grands commis de l'État, et qui vont aider, il y a entre 15 et 18, le ministère Richelieu est un des grands ministères de notre histoire.
Et Decazes, alors que fait-il précisément ? Parce qu'il est assez mal vu, Decazes, j'ai l'impression. Il est,
comme tout favori.
Oui, forcément. Chateaubriand, toujours dans les mémoires d'outre-tombe, le traite de manière assez violente, notamment dans le cadre de ses rapports avec le roi, avec Louis XVIII. Donc voilà ce qu'écrit Chateaubriand à propos des rapports entre Louis XVIII et son ministre Élie Decazes. Se fait-il, dans le cœur des monarques isolés, un vide qu'ils remplissent avec le premier objet qu'ils trouvent. Sympathique pour Decazes. Est-ce sympathie, affinité d'une nature analogue à la leur ? Est-ce une amitié qui leur tombe du ciel pour consoler leur grandeur ? Est-ce un penchant pour un esclave qui se donne corps et âme, devant lequel on ne se cache rien, pardon, esclave qui devient un vêtement, un jouet, une idée fixe, liée à tous les sentiments, à tous les goûts, à tous les caprices de celui qu'elle a soumis et qu'elle tient sous l'empire d'une fascination invincible ? Plus le favori est bas et intime, moins on peut le renvoyer parce qu'il est en possession de secrets qui feraient rougir s'ils étaient divulgués. Autrement dit, Ça fait penser à cette formule plus lapidaire de Constant, le valet de chambre de Napoléon, qui dit qu'il n'y a pas de grand homme pour un valet de chambre. Et Decazes est réduit au rang d'un valet de chambre, finalement.
Oui, Talleyrand, qui
d'un esclave, même bien pire.
Talleyrand le qualifiait d'assez beau garçon perruquier.
Oui.
Il n'aimait pas non plus beaucoup. Mais je pense que c'est au contraire, du point de vue du jésuite, intelligent. Il doute de la fidélité des grandes figures du passé. Il déteste, par exemple, Talleyrand. Mm-hmm. Il considère comme quelqu'un de mesquin et qui ne pense qu'à lui-même. On ne peut pas dire qu'il ait une affection débordante pour Fouché. Il n'oublie quand même pas que c'est l'assassin de son frère. Mais il sait aussi, il l'a vu avec Blacas. Louis XVIII renvoie Blacas en 1815 et renvoie son favori. Qu'il a besoin d'hommes nouveaux. Et ce Decazes, qui est né en 1780, qui a été secrétaire des commandements de Madame Mère, c'est-à-dire fonctionnaire subalterne de Napoléon, mais qui est un royaliste sincère, est quelqu'un que Louis XVIII va pouvoir à la fois façonner. Il est entouré d'une cour qui est plutôt favorable à son frère le comte d'Artois. C'est un homme très seul. Mmh. Entre des hommes du passé, entre une immigration qui ne l'aime pas beaucoup, parce qu'elle le trouve trop libéral, entre une France nouvelle qui ne le connaît pas, bien, il cherche des amis, des rencontres. Et Decazes, qui ne doit pas, qui évidemment ne serait rien sans le roi, lui en garde une reconnaissance infinie. Mais c'est un couple politique qui fonctionne relativement bien, parce que Decazes, qui commence par le ministère de la police et qui réussit quand même à écarter Fouché, lui, avec Richelieu, c'est un peu l'homme du passé et l'homme de l'avenir, c'est l'alliance de deux générations, une royaliste de toujours, une royaliste convertie, sont d'accord sur le constat qu'il faut faire quelque chose de nouveau et qu'il faut ouvrir progressivement, tout en maintenant une certaine forme de modération, de gouvernement décente, pour ne pas se laisser déborder par les deux tendances opposées, les ultras, alors qui rêvent, on peut en parler longuement, pas forcément d'un retour à l'ancien régime, sauf si on entend par ancien régime ce qui se passait avant Louis XIV, il y a une nostalgie de l'aristocratie puissante, c'est un mouvement très intéressant du point de vue des idées, et l'extrême gauche libérale, qui elle n'a jamais admis la restauration, et qui rêve soit d'une république, soit d'un renversement du trône. Entre ces deux grandes menaces, le chemin est relativement ténu. On est, vous l'avez dit, dans un pays qui a été battu, qui est exsangue. Mais ces deux hommes, pendant 3 ans, vont permettre les conditions du redressement de la France. C'est un bilan qui est plutôt...
plutôt honorable. Voilà, oui, parce qu'ils parviennent à maintenir cette ligne de crête, finalement.
Ils parviennent à libérer le territoire, ils parviennent à restaurer, sur des questions alors, obscures et oubliées, comme celle de Grande Disette, dans l'année 1817, à assurer l'approvisionnement du royaume, à redresser les finances publiques. Vous avez une conjonction d'hommes de talent, comme une forme d'union sacrée, de parenthèse enchantée, qui redresse le pays pendant 3-4 ans. C'est un peu le miracle français par excellence, c'est que dans les grandes épreuves, quand on est tous les genoux à terre et les mains ensanglantées, on trouve des gens nouveaux pour accomplir le travail, et c'est ce qui est fait pendant cette période-là. Et en 1819, la France est à nouveau en ordre de marche, elle est libre, elle est sereine. Et évidemment, dès que le calme est revenu, on est en France aussi, les divisions reprennent.
Oui, et d'autant plus qu'à partir de 1820, la santé de Louis XVIII décline assez sérieusement.
Oui.
Et lui-même, ça se ressent finalement sur son gouvernement. Decazes est évincé au profit d'un ultra, oui. Qui est Villèle. Est-ce que c'est directement lié à l'affaiblissement physique de Louis XVIII ou est-ce que d'autres considérations entrent en jeu?
C'est une considération...
Parce qu'en fait, on peut distinguer son règne en deux, quoi. 1814-1820, redressement, faste...
Même en trois, 1814-1816, crise, ouais. 16-20, ouverture libérale,
ouais.
20-24, retour vers les ultras.
Ouais. Donc alors, en tout cas, est-ce qu'à partir de 1820, donc déclin progressif de Louis XVIII, et en même temps, retour finalement des ultras et déclin également du gouvernement. Alors comment expliquer ce qui se passe?
D'abord, ce que je vous disais, les divisions reprennent, le territoire est libéré. Ce qui a fait la magie de ces années-là, c'est l'alliance, en gros, pour aller très très vite, d'un centre-gauche et d'un centre-droit. Et cette alliance explose après la libération du territoire entre ceux qui, comme Richelieu, trouvent qu'on est allé trop vite, trop loin, et ceux qui, comme Élie Decazes, veulent continuer à poursuivre les réformes en pensant qu'il y va de l'avenir même de la dynastie. Donc division, le centre-droit retend vers les ultras, et le centre-gauche essaye par plein de moyens. Il se passe l'année 19 est une année extraordinairement riche en débats, tentatives de réformes politiques, mais qui n'aboutissent pas parce qu'il n'y a plus de majorité pour les faire aboutir. Et fin 1819 et début 1820, se passent deux choses très importantes. Fin 1819, il y a des élections partielles et il y a un député qui est élu avec l'aide des libéraux et le vote des ultras, qui est l'abbé Grégoire, régicide, non de fait,
oui,
voilà,
oui, oui.
Mais régicide d'intention, qui a dit que les rois étaient, je crois, des bêtes dans l'ordre étaient à l'ordre humain ce que les bêtes étaient dans l'ordre animal. Enfin, des choses extrêmement plaisantes sur la royauté. Et c'est un non possumus pour Louis XVIII qui, à ce moment-là, demande à Decazes de faire marche arrière. Mais le dernier gouvernement de Decazes, qui dure 100 jours, est un gouvernement sans majorité, qui n'a plus d'assises. Deuxième élément dramatique, l'assassinat du duc de Berry, le seul prince de la famille royale qui peut assurer une descendance au trône, qui est assassiné par un isolé fanatique républicain qui s'appelle Louvel en février 1820. Cet assassinat, a priori, prive la famille royale de descendance et tue Decazes, politiquement, puisque toute sa politique d'ouverture, phrase, je crois, de Chateaubriand terrible sur lui, disant « les pieds lui ont glissé dans le sang du duc de Berry », Decazes n'a plus personne et Louis XVIII, qui l'a soutenu jusqu'au bout, finit par l'abandonner parce qu'il n'y a plus,
parce qu'il n'a plus le choix.
Il n'y a plus le choix. Oui. Alors, vers qui aller ? Naturellement, après être allé vers le centre-gauche, on retourne vers le centre-droit, sauf que le centre-droit s'appuie, et c'est le vrai tournant de 1820, sur les ultras pour revenir. Ultras qui ont une figure très intéressante et très politique en appui, qui est Joseph de Villèle, qui est, après, je crois, Georges Pompidou, le Premier ministre qui est resté le plus longtemps en fonction de notre histoire, et le maréchal Soult, mais enfin, qui n'est pas un vrai Premier ministre sous la monarchie de Juillet. Villèle, qui, lui, est venu à la politique par les finances, qui est toujours le meilleur moyen de réussir en politique, vu la grande capacité des Français pour les questions économiques et financières. Et Villèle, qui est un ultra assez mesuré, qui n'est pas un excité considérant qu'il faut pourchasser c'est tous les
Polignac.
Révolutionnaires. Non, ce n'est pas Polignac. Villèle fait un bout de chemin avec Richelieu. Mais sauf qu'au bout d'un moment, Villèle, comme Richelieu a été aspiré vers Villèle, Villèle est aspiré par ce qu'on appellera les pointus, les plus durs des ultras, qui trouve que la politique de conciliation, en gros, depuis Louis XVI, a assez duré, et qu'il serait finalement temps d'appliquer maintenant une politique dure vis-à-vis de gens qu'on fait les 100 jours, qui sont des traîtres en puissance, et qui jamais n'accepteront la royauté. Et c'est, après cet éclatement des centres, on va avoir un éclatement de la droite, progressif, ça prend beaucoup de temps, qui va finir par précipiter la restauration dans sa perte, sur fond de résurgence de la mémoire bonapartiste, avec le mémorial de Sainte-Hélène.
Oui. Alors, Louis XVIII meurt le 16 septembre 1824 et il n'a donc pas de descendance, vous l'avez dit, à cause de l'assassinat. Lui n'a pas de descendance et il n'y a pas d'héritier au trône à cause de l'assassinat du duc de Berry. Donc finalement.
Il y a l'enfant du miracle. Enfin, il y a un enfant qui est né effectivement posthumement à la mémoire du duc de Berry, le futur Henri V, comte de Chambord, mais enfin qu'à l'époque, à 4 ans, et dont la survie n'est pas garantie. Le roi de France pourrait s'appeler Louis-Philippe.
Oui, et finalement ce sera Charles X.
Et finalement, donc c'est Charles X
qui n'aurait
le frère.
Jamais dû régner, puisqu'il est le troisième frère.
Quel destin.
C'est
après
vrai,
Louis XVI et Louis XVIII, le troisième des trois frères à monter sur le trône, déjà âgé, qui est un roi, il a été très très bien défini, je pense, qui ne se réduit pas à sa caricature, qui a été très bien dépeint par un biographe qui s'appelle José Cabanis, et très bien défini par Charles de Rémusat dans ses mémoires, qui dit que c'était un homme en fait très gentil, profondément, qui aimait être aimé, mais totalement intransigeant et rigide sur les principes.
Psychorigide. Oui.
Charles X se vante d'être le seul avec Lafayette à ne jamais avoir changé d'avis depuis 1789. Et lui considère que depuis l'Assemblée des Notables de 87, Calonne et d'autres, la monarchie est allée de catastrophe en catastrophe. Et que ce qu'attendent les Français, c'est une monarchie qu'on fait à Napoléon. Il y a eu un empire autoritaire, une monarchie autoritaire qui gouverne, qui applique une législation favorable aux intérêts de ses plus proches, qui sont la grande noblesse, la grande propriété foncière. C'est un régime qui se méfie de la bourgeoisie, considère comme le terreau des révolutions. Et à l'intérieur de ça, il y a même certains, Villèle a une pensée d'ailleurs intéressante, qui inspirera une grande partie du légitimisme ultérieur, sur une grande ouverture du suffrage et une sorte d'union sacrée entre les nobles terriens et la paysannerie pour engloutir le bourgeois qui est plutôt l'ennemi.
Oui. Alors, d'autant plus que Charles X a une vision assez intransigeante du pouvoir. C'est lui, je crois, qui a dit qu'il préférait couper du bois que de régner comme le roi d'Angleterre.
Absolument.
Oui.
Qu'il fallait, lui, sa grande formule, il faut tout le temps monter à cheval.
Oui. Donc il n'a pas dû avoir une estime très forte pour le gouvernement de son frère, d'ailleurs.
Mais c'est... Ah oui, surtout du premier d'ailleurs. Je crois qu'il y a vraiment Louis XVI et Louis XVIII et Charles X n'étaient d'accord pour rien, sauf pour critiquer la faiblesse de leur aîné.
Ouais.
Il y a eu beaucoup de rivalités en interne entre ce qu'on appelle pavillon de Marsan et c'est une des raisons pour lesquelles Louis XVIII pousse Decazes. D'ailleurs, c'est pour faire barrage à son frère. Il n'y a pas de vraie réconciliation sur la fin, mais Charles X, jusqu'en 1829, pendant les premières années de son règne, qui n'est pas quand même complètement suicidaire et qui est un homme de parole, essaye de gouverner un petit peu selon la charte. Et puis, il a un gouvernement royaliste, ce qui facilite légèrement la tâche. Mais là où son inflexion se sent tout de suite, là où Villèle, qui est un politique pragmatique, a plutôt marché sur des œufs et n'a pas vraiment avancé vers la voie de la contre-révolution, lui met la pression pour faire voter un certain nombre de lois qui vont commencer à refracturer la France en deux.
Rétablissement de la censure.
Rétablissement de la censure, ça c'est vers la fin 1826. Mais la loi dite du milliard des émigrés, qui est faite dès 1825, qui est une loi en fait qui veut fermer, qui veut régler la question de la spoliation des émigrés, qui est donc très défendable en espèces, mais qui est présentée par les ultras comme un moyen de faire rendre gorge aux révolutionnaires qui considèrent, eux, qu'ils ont acquis légalement leurs biens.
Oui, donc c'est une remise en question des biens nationaux qui a dû faire très très peur.
Bien sûr, d'abord aux détenteurs. Et au lieu, il y avait deux manières de la vendre. Au lieu de vendre, Louis XVIII l'aurait sans doute vendu comme une loi de réconciliation, réglant quand même un problème de spoliation à l'origine de la propriété privée. Mais les ultras les plus durs commencent à vouloir flageller la révolution en place publique. Et bien entendu, les acteurs de cette révolution et les autres commencent à monter en puissance contre la dérive mortifère des ultras, leur goût pour le château, les passés, les vieux usages. Et on voit dans la presse le ton progressivement monter entre les
deux
camps.
Avec une hypermnésie révolutionnaire, finalement. C'est-à-dire que la révolution revient en force dans la mémoire.
Et parce que les acteurs disparaissent.
Ouais.
L'histoire revient. L'histoire vient en force. Je vous citais le mémorial de Sainte-Hélène, les mémoires, les grands mémoires de révolutionnaires, les grandes synthèses, l'histoire de la Révolution française de Thiers, paraît sous la Restauration. Et on commence à raconter une histoire de la Révolution qui n'est plus forcément celle que les témoins ont connue, mais une histoire qui est beaucoup plus ennoblie, et en tout cas beaucoup plus favorable aux, aux acteurs de l'épopée révolutionnaire que les derniers survivants ne l'avaient laissé paraître.
Oui. Donc, outre cette loi des émigrés, outre ce rétablissement de la censure, il y a également le fait que Charles X est quelqu'un de très dévot et qu'il est, je ne dirais pas anachronique, mais qu'il est dévot dans une France où l'anticléricalisme a gagné de l'espace.
Bien sûr.
Et il y a notamment la question du sacre de Reims, c'est-à-dire qu'il refuse absolument de monter sur le trône s'il n'est pas oint à Reims. Alors, est-ce que cela, ça n'a pas également contribué à choquer ou à crisper une opposition?
Alors là, très probablement, en sachant que Louis XVIII lui-même, s'il avait pu, aurait été sacré, ce qui est assez peu, ce qui est assez peu connu. Il est cohérent, quand vous êtes une monarchie, le principe est la légitimité de vous appuyer sur un sacre. La manière, c'est exactement comme pour la loi du milliard des émigrés, ce qui pourrait être une manière intelligente de réconcilier le passé et le présent. Il y a des grands débats sur le nouveau serment qu'on va prononcer à l'occasion du sacre. Les gens retiennent l'attitude d'extrême dévotion, effectivement, de Louis XVIII, de Charles X pendant son sacre. Ils retiennent à peu près de façon concomitante une loi dite sur le sacrilège, qui notamment condamne à la peine des parricides, ce qui est assez violent, c'est-à-dire les poings coupés avant exécution, une profanation des hosties, le fait de voler des hosties ou de les...
Il y a une... Ça renvoie quasiment à Henri IV. Enfin,
une impression un peu d'inquisition.
À l'exécution de Ravaillac, enfin, ce genre de choses, quoi, des choses extrêmement violentes et symboliques.
Loi qui d'ailleurs, en plus c'est idiot, parce que cette loi sera votée, mais bien évidemment jamais appliquée. Le gouvernement se laisse un petit peu entraîner par les plus vigoureux des ultras, et par exemple quelqu'un comme Chateaubriand, qui est vraiment intéressant à suivre, parce que comme, même s'il détestait Decazes, je dirais, comme lui, il essayait de concilier modernité et royauté, a dit au sujet de cette loi sur le sacrilège que la religion qu'il connaissait, la religion du Christ, était une religion de charité, de pardon, d'amour, et qu'on en faisait une sorte de monstre hybride. Et on a l'impression d'une sorte de surenchère et de provocation permanente de la part d'une bande d'exaltés qui précipitent le trône dans l'abîme sans savoir ce qu'ils font, mais malheureusement d'un Charles X qui est tiraillé entre la tentation de jouer le jeu avec Villèle, et puis ses vieux souvenirs de jeunesse et sa conviction
qui le
intime
porte à la radicalité.
Que, en fait, la royauté ne peut être sauvée qu'en redevenant pleinement elle-même.
Oui.
Et en étant mordue.
Donc, est-ce que Charles X, une fois sur le trône, est le chef des ultras, ou est-ce que, malgré tout, il tente de maintenir un juste milieu? Non, vous avez tendance à dire qu'il reste le chef des ultras, finalement.
Moi, je pense que Charles X a vraiment, durant les premières semaines, il y a une loi qui abolit la censure, justement, à son début.
Au tout début, oui.
Au tout début. Je pense que dans un premier temps, mais il est comme tout roi qui se respecte, il veut être aimé, et il essaye de pratiquer une politique de relative ouverture. Et qu'il y a chez lui un petit côté un peu enfant gâté ou vieil adolescent. Et au fur et à mesure, les contrariétés se multiplient. la majorité de Villèle se disloque, oui. Les lois qui sont présentées dans les années 26-27 sont systématiquement rejetées par la Chambre des pairs. Alors en 27, là, entraîné par Villèle, il nomme une fournée de pairs proche de son président du Conseil. Il dissout, quelle erreur, la Chambre des députés. Oui. Qui est en train d'entrer en capilotade. Et,
donc là, nous sommes en 1828, c'est ça ?
On est fin 27.
27, oh, d'accord.
Et ce qui est le moment où la monarchie descend la première marche du trône, c'est que Charles X joue le coup, il va la jouer deux fois, d'une dissolution, ce qui est une arme maniée toujours avec une certaine circonspection, et il perd, ouais. Parce que l'élection qui revient, alors lui rend une chambre en plus totalement ingouvernable.
Ouais, une chambre, la chambre libérale.
Alors, même pas libérale, c'est une chambre quasiment illisible, sauf pour les exégètes munis d'une excellente connaissance de la période, où on a, en gros, des libéraux à égalité avec des ultras, mais à l'intérieur, des gens qu'on appelle ceux de la défection, qui sont des ultras qui ont quitté Villèle, mais qui, sur certains points, sont prêts à s'allier avec les libéraux, les pointus, qui, eux, sont pour une certaine forme de radicalité, et des constitutionnels, un centre-droit, un centre-gauche, on commence à éclater vers une forme de multipartisme, et on a une majorité, alors là, qui, pour le compte, est vraiment introuvable.
Ouais.
Et cette, Charles X nomme une figure un peu centre-droit à la Richelieu, qui est le vicomte de Martignac. Qui essaie aussi de freiner, parce que tout le monde voit bien que la machine est en train de s'emballer, et surtout, personne ne veut de révolution.
Et alors là, pour le coup, Charles X va à nouveau réagir de manière crispée et par la force finalement, puisqu'il remplace de manière un peu brutale Martignac par un ultra qui est Jules de Polignac.
Oui, là il fait vraiment très fort durant l'été 29, parce qu'en avril 29, alors Martignac qui présente des lois un peu à la Richelieu de Casse, présente une loi municipale, que et certains ultras, et le centre droit, et les libéraux, pour des raisons tactiques différentes, rejettent. Et là, le roi se dit, ces parlementaires ne changeront jamais. Je crois qu'il dit à Martignac, vous voyez bien qu'on ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Il rumine en silence. Et là où il est resté un petit peu le comploteur de Versailles, du pavillon de Marsan, le roi de France cesse d'un peu d'être le roi de France pour redevenir le roi des ultras.
Oui.
Il commence à consulter tous azimuts pour nommer un ministère clé en main, où il espère une forme de martingale, avec un ministère totalement hallucinant, qui est le ministère d'août 29, qui est le ministère d'Ipolignac, où on trouve d'anciens magistrats un peu pro-révolutionnaires dans leur jeunesse, alors que le garde des Sceaux s'appelle Courvoisier, il a été oublié par tout le monde, mais qui est un ancien du centre-gauche. On propose même un ministère à deux cases, qui dit « Vous êtes fous, vous ne pouvez pas rentrer dans une combinaison pareille ». On nomme, pour le contrôler de l'intérieur, le chef alors des pointus les plus radicaux, qui a toujours porté le discours le plus violent contre la Révolution, qui s'appelle Labourdonnais, qui est un repoussoir à lui-même pour 90% de la Chambre. On nomme comme ministre de la guerre, alors là aussi, quelle erreur. On a nommé en 1814, le premier était le général Dupont, qui était le vaincu de Belaine. Ce n'est pas le meilleur moyen d'entraîner l'ancienne grande armée. Là, je trouve qu'on franchit un gap en proposant à Bourmont, qui était général de division et qui a trahi Napoléon à Waterloo. Ce qui fait que même Blücher a refusé de lui adresser la parole. Et cet homme, bon, pour des raisons...
Alors là, pourquoi est-il nommé ?
Mais il est nommé parce qu'il est un royaliste fidèle, ça est pour
et
cause,
tout, oui, oui.
Qui ne cesse de dire qu'il faut reprendre en main l'armée et qu'on considère qu'avec lui, effectivement, on veut des hommes sûrs. Mmh. Ah, ça, il est sûr, mais que représente-t-il ? Pas grand-chose. Et on se retrouve avec ce ministère dont les trois figures de proue sont Labourdonnais, le chef des pointus, Polignac et Bourmont. Le journal des débats ramène une trilogie qui dit Koblenz, c'est la référence à Polignac, Waterloo pour Bourmont et 1815 pour Labourdonnais qui avait dit il faut défaire des bourreaux, des supplices contre tous les complices des 100 jours. Donc, effectivement, donc ce ministère n'a aucune majorité parlementaire.
À quelle époque sommes-nous là ?
Là, on est à l'été 1829. Polignac qui a fait des calculs hallucinants de majorité. L'idée de Polignac, qui a été aussi en Angleterre, c'est de faire une révolution royale avec un appui parlementaire. En se disant, en combinant un peu, je prends 10 voix à droite, 10 voix à gauche, on va trouver des projets fédérateurs. Il y a un amateurisme dans tout ça qui est proprement sidérant. Et au bout de 6 mois, d'ailleurs, le ministère, qui n'est pas d'accord sur grand-chose, n'a toujours pas avancé. Quand arrive la session parlementaire,
où là les choses... En mai 1830, c'est ça ?
Là, nous sommes en mai 1830, oui. Début 1830, les choses dégénèrent assez rapidement. La Chambre des députés fait une adresse très modérée et dit au roi, parce qu'il faut bien avoir tête dans ça, personne ne veut de révolution. Elle est dirigée par Royer-Collard, qui est un royaliste modéré de centre-droit, qui dit « Sire, notre loyauté, notre dévouement nous condamne à vous dire que le concours que vous nous réclamez n'existe pas. » L'adresse est très polie, mais elle explique que le ministère n'a pas de majorité, que la charte, surtout telle qu'elle a évolué, va de plus en plus vers le parlementarisme, vers une forme d'union et d'alliance entre le trône et le Parlement. Ils disent au roi, on ne vous demande pas le pouvoir pour nous, on vous demande un partage. Donc, Charles X le prend très mal, reçoit les députés, et dit, messieurs, il les renvoie, alors, il casse même pas la chambre, il les proroge, alors là, toutes les rumeurs partent de tous les côtés, qu'est-ce que va faire le roi ? Il finit par redissoudre la chambre.
Oui, grande imprudence. Pour se reconstituer, hypothétiquement, une majorité solide.
Oui.
Alors, et les résultats ?
Résultat, le roi, en plus, se mêle à la campagne électorale. Donc, s'expose
donc
en première ligne.
Donc, il devient un acteur,
oui. En disant, remplissez vos devoirs, je saurai remplir les miens. Donc, il s'expose. Et bien, les 221, l'adresse a fait 221, je crois, contre 160, 170, parce que les gens hésitent à défier le pouvoir royal. Ben, les 221 reviennent beaucoup plus nombreux. Et les troupes royales reviennent à un niveau éthique. Ça ne suffit pas. Le roi, entre-temps, espère se refaire par l'expédition d'Alger, où il envoie le sémillant Bourmont partir en pensant qu'une victoire militaire à la Napoléon va permettre peut-être de redresser le tir. Et on se retrouve en juillet 1830 avec une chambre qui s'apprête à se réunir et à chasser le ministère. Une armée dont toute l'élite est partie à Alger. Il reste à peine 8 ou 9 000 hommes à Paris. Et un roi qui refuse de capituler et qui, à ce moment-là, il faut dire que la situation est humiliante. Soit il se soumet. Personne ne pense à le démettre. Et il nomme un ministère libéral et il devient une forme de roi constitutionnel. Soit il évolue à l'anglaise.
Ce qu'il n'a jamais voulu. Oui.
Ce qu'il n'a jamais voulu.
Donc il préfère retourner couper du
soit
bois.
Soit il tente le coup de main de la dernière chance, qui est d'utiliser un prétexte de climat révolutionnaire qui n'existe pas, pour s'appuyer sur un article ambigu, l'article 14, ancêtre de notre article 16, et promulguer dans le silence de son cabinet, avec quelques ses ministres, quatre ordonnances.
Les ordonnances de Saint-Cloud. Donc.
Qui... brise la liberté de la presse,
dissolve la chambre
élue, pour y substituer une loi électorale sans concertation qui favorise uniquement la grande propriété foncière. Donc effectivement, alors, comme on n'a plus de majorité, on va la chercher dans le dernier recours. Ce sont autant d'ordonnances qui ont l'apparence de la légalité, mais qui n'en ont absolument pas la réalité. Aucune précaution, allons-y. Si on veut être bonapartiste, quand on prépare un coup d'État, on le prépare.
Oui.
Il y a une armée...
Ce n'est pas le 18 Brumaire.
Non, il y a une armée qui s'esboudille, qu'on confie au maréchal Marmont. Alors le pauvre, dont la défection a scellé la perte de Napoléon, se retrouve chargé de faire régner l'ordre à Paris. Paris qui n'a rien à voir avec le Paris actuel, qui est un encombrement de ruelles où le ministère est ultra-majoritaire, avec des émeutiers qu'on vient d'armer. Enfin, qu'on a armé en deux temps. Il y a la garde nationale bourgeoise qu'on a dissoute en 1827, mais on n'avait pas repris leurs fusils. Là, en brisant la liberté de la presse, on met au chômage plusieurs dizaines de milliers d'ouvriers, notamment d'ouvriers typographes, qui feront les premiers bataillons de l'insurrection. Et on a en face 10 000 hommes que Marmont divise en trois colonnes et qui vont sillonner les rues de Paris pendant trois jours sous 30 degrés en démantelant des barricades pour courir après les révolutionnaires qui, pendant ce temps, pendant que la population vide sur eux leur pot de chambre, d'où le terme de gain des pots de chambre. Et au bout de trois jours, les soldats sont épuisés, ont soif. Marmont finit par se replier autour du Louvre. Un des régiments fait défection, tout le dispositif se débande.
Et c'est la fin des Trois Glorieuses.
Et c'est la fin des Trois Glorieuses.
D'accord. Alors, cette misérable épopée, si on peut dire, de trois jours, ça s'achève sur la défaite... patente de Charles X.
Oui.
Que faire ?
Alors là, le roi, qui n'était pas effectivement à Paris même, comprend le 29 juillet, à l'issue des trois glorieuses. D'abord, il pense gagner la bataille militaire jusqu'au dernier moment. Quand il a des inquiétudes, il y a un moment, il va voir Polignac. Les ministres sont là et Polignac, scène célèbre, semble rassuré parce qu'il aurait eu une apparition de la Vierge. Bon, effectivement, quand on voit le résultat. Et le 29, les gens qui veulent sauver la monarchie, il y a de très nombreux courtisans. La cour n'est pas une camarilla d'ultra-fous qui disent au roi, mais il faut arrêter ça tout de suite. Quelqu'un comme Mortemart, son dernier président du Conseil, il faut chasser Polignac. Il faut prendre contact avec les pouvoirs qui sont en train de se mettre en place à Paris et avec les députés qui, eux, a priori, ne veulent pas de révolution et essayer de recoller les morceaux et de céder complètement sur toute la ligne, ce qu'on n'a pas voulu faire plusieurs mois plus tôt. Donc il y a pendant 2-3 jours des conciliabules. Mais pendant ce temps-là, les députés qui eux-mêmes craignent l'instauration d'une république, on revient exactement au schéma de 1814. Cette fois-ci, on refait tourner le Bilteau, qui nomme-t-on, Napoléon II, mais il est en Autriche.
On pense à Napoléon II ?
Ah oui, il y a une partie des émeutiers, ils pensent en tout cas.
Ah oui, les émeutiers.
Il y a un général, le général Dubourg, qui essaie de favoriser la restauration de l'Empire. Il y a beaucoup d'anciens bonapartistes, pourquoi pas ? C'est dans les hypothèses en tout cas. Charles X ne peut pas, très vite, les chefs des parlementaires, même les plus modérés, finissent par dire, il a fait tirer sur le peuple parisien, il est irrécupérable. Et donc c'est comme ça que la solution Louis-Philippe, comme la restauration en 1814, finit par être acceptée par la majorité des élites au pouvoir comme la meilleure ou la moins mauvaise solution possible. Et le deal final est passé avec Lafayette, républicain d'intention, qui considère effectivement que la France n'est pas mûre et accepte de faire de Louis-Philippe le roi des Français.
Nuance très importante, puisque Charles X était roi de France avec l'ensemble de ses prédécesseurs. Donc Louis-Philippe est le premier roi des Français, ce qui n'est plus tout à fait
depuis
pareil.
Depuis Louis XVI, entre 1791 et 1792.
Oui, c'est vrai, c'est exact. mais bon, parenthèse.
Mais bien sûr. Ouais.
Et donc Louis-Philippe apparaît surtout drapé du drapeau tricolore. Et là, nous abandonnons le drapeau blanc qui avait été imposé par Louis XVIII à son retour.
Exactement.
Donc là, symbole, encore une fois, extrêmement fort, extrêmement significatif.
Ça ne sera pas la même histoire. Et d'ailleurs, il est Louis-Philippe Ier et pas Philippe VII, comme il aurait pu le faire. Louis-Philippe se retrouve lui aussi au pouvoir. Je trouve que c'est un roi avec lequel on est souvent très sévère et injustement sévère. Et Arnaud Tessier lui a consacré une très belle biographie qui, à mon avis, réhabilite l'intelligence du personnage et sa volonté de pacification française. Si Louis-Philippe ne prend pas le trône, c'est l'anarchie et pourquoi pas la guerre civile. Charles X, par rapport à tout ça, il y a cette espèce de vieille tragédie funèbre de la monarchie où ce vieil homme qui a tellement menacé de faire feu est en fait aussi un homme de bien, comme Louis XVI. Il s'est tellement opposé à Louis XVI. Ben comme Louis XVI, il a du mal à faire tirer sur le peuple. Il est entouré de quelques milliers de gardes du corps. Là, il y a une force royale qui pourrait lutter. Et il comprend, il recule de château en château, avec des troupes de plus en plus faibles. Il finit par nommer Louis-Philippe lieutenant général du royaume pour essayer de sauver le trône pour l'enfant du miracle. Et puis il finit par renoncer à tout. Et par dégoût, il y a cette espèce d'épopée funèbre d'une quinzaine de jours qui mène la famille royale vers Cherbourg, qui est une grande source d'inspiration pour les écrivains, pendant que K1KA, la monarchie de Juillet, s'établit sur les barricades dans des conditions assez hallucinantes.
Entendu. Et donc la restauration est terminée. Alors, s'il fallait maintenant la résumer en quelques mots, que peut-on retenir ? Quels sont les apports, finalement, de la restauration pour la France d'aujourd'hui ?
D'un point de vue législatif, sur les grands principes du droit public, sur ce qui préside nos grands principes qui régissent toujours, alors, y compris notre République, je pense notamment aux libertés fondamentales et individuelles, elles sont définies avec netteté durant la Restauration. L'organisation de notre 5e République n'est pas très différente de la Restauration. Elle a un président du Conseil, qui est un Premier ministre. C'est vraiment là que le duopole roi-président du Conseil, enfin chef de l'État, chef du gouvernement s'établit, quel héritage, on vit toujours sur lui, la nécessité d'équilibrer durablement une chambre par une autre, une chambre des sages et une chambre des élus. Alors à l'époque, c'est les pairs héréditaires ou viagers, maintenant ce sont les sénateurs, mais le principe ne diffère pas forcément fondamentalement. La richesse, la forme d'exception, le génie littéraire français, si on devait retenir de la restauration une chose, c'est cette alliance qui a tellement disparu et qui pourtant fait tellement partie de notre histoire entre la politique et la littérature. Cette façon assez belle et sublime par la plus belle langue d'éclairer la politique par les mots. Et les plus grands écrivains de l'époque sont tous des politiques et chaque politique écrit des mémoires et aussi fait exercice d'écriture. Ce qui peut passer aujourd'hui pour quelque chose d'un petit peu suranné et pourtant la condition même de l'exercice du pouvoir.
Il reste 2-3 hommes politiques qui écrivent leurs livres eux-mêmes.
Sans doute. Oui, bien sûr. Mais on est... Mais c'est une tradition qui a perduré jusqu'à Charles de Gaulle, François Mitterrand et Georges Pompidou.
Oui.
Donc c'est quand même dont on voit actuellement l'effacement, mais qui n'est peut-être pas définitif.
Bien que nous ayons plutôt versé maintenant vers la communication et moins vers le manifeste ou vers la rédaction de mémoire. Oui,
complètement. Je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne chose.
Un gain. Entendu. Benoît Hiver, merci beaucoup.
Merci à vous.
Chers auditeurs, cette émission touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura donné envie de vous rafraîchir la mémoire ou d'approfondir vos connaissances sur la restauration. Je vous rappelle donc que je recevais Benoît Hiver, historien, auteur de l'ouvrage « La restauration, les idées et les hommes », récemment paru aux éditions du CNRS. Merci de votre attention.